Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Et bonjour, c'est Capture Mag Hebdo. Et on est déjà presque mi-février. Je pars sur les pistes de ski très très bientôt. Ça va être cool, j'espère qu'il y aura un peu de neige. Je vais dans les Vosges, hein, c'est pas sûr. Et je suis entouré de journalistes cinéma de Capture Mag absolument exceptionnels. Et très beaux, et bronzés. Il y a Rafik, bonjour Rafik.
Bonjour, c'est ma première fois ici.
Presque. Et il y a Stéphane.
Bonjour. Salut David, Stéphane. Ça va?
Il y a aussi Arnaud Bordas.
Hop hop hop.
Hop hop hop. Et il n'y a pas Julien, mais Julien reviendra je pense la prochaine fois.
Et Julien est avec nous ici même.
Il est avec nous, on pense à lui.
En esprit.
On l'embrasse. Je reviens deux secondes sur le Capture Mag de la semaine dernière. Là, l'épisode 7, c'était merveilleux tout ce que vous avez raconté sur Scorsese. J'ai appris énormément de choses. Vraiment, c'était passionnant. Je vous recommande de l'écouter très vite si vous ne l'avez pas encore fait. Et donc aujourd'hui, on a un petit programme sympathique puisqu'on va parler de A Cure for Life de Gore Verbinski qui sort dans quelques jours, le 15 février.
En salle
de cinéma. On va parler de Don't Breathe qui est la maison des ténèbres, sortie DVD Blu-ray, pareil le 15 février, chez Sony. Et on va parler de Insiders, un direct-to-video d'origine espagnole chez Condor Entertainment. Et ça a l'air très intéressant aussi. Donc, un petit programme bien chargé et on va commencer tout de suite par Cure for Life de Gore Verbinski. C'est parti. Alors Stéphane, parle-nous du nouveau film de Gore Verbinski. On rappelle, Gore Verbinski, c'est Pirates des Caraïbes, par exemple.
Pirates des Caraïbes, La Souris,
oui,
Le Mexicain, ouais. Le remake américain de The Ring.
Ouais. Rango, c'était pas lui ?
Rango, tout
ouais,
à fait.
J'avais bien ouais. aimé ça, ouais. Rango.
Je l'ai pas vu.
C'est un super travail d'ILM, en tout cas, en animation.
Voilà. Et c'est dernièrement Lone Ranger. Voilà.
Ouais,
et,
alors ça, c'était déjà moins ouais. passionnant.
Et Cure for Life, aujourd'hui, qui est le titre français, pas en français en l'occurrence, de Cure for Wellness, qui est son nouveau film, en fait.
C'est vrai que Wellness, c'était plus difficile à comprendre en français que Life. A priori, Life, c'est un mot qu'on comprend, même si on est français.
Comme si t'achètes du Coca-Cola Life, tu vois. Ah, par exemple, tout va bien, quoi. Ouais.
Coca-Cola vert, couleur vomi.
Tout à fait.
Est-ce que le film est couleur vomi?
Eh ben, écoute, malheureusement, c'est vraiment pas bien du tout. Bon, moi, je suis pas déjà à la base un grand fan de Gore Verbinski. Je suis pas non plus un grand fan des Pirates des Caraïbes. À la limite, je trouve que La Souris, c'est plutôt sympathique.
Ouais, c'était sympa.
Le
absolument
remake,
introuvable en Blu-ray, enfin en HD, ou en... c'est un film qui a un peu disparu des radars.
C'est un film qui est complètement oublié, puis c'est un fonds de catalogue pour DreamWorks, en fait, c'était une des productions DreamWorks de l'époque.
Ah, c'était de la production, ouais. Ouais, d'accord, DreamWorks.
Et le remake de Ring est relativement honorable pour un remake de cette sorte-là, j'avais trouvé, voilà. Mais là, le truc de Cure for Life, c'est que ça raconte l'histoire d'un jeune... banquier, trader, homme d'affaires aux dents longues, en fait, qui se voit assigner le fait d'aller chercher le patron de son entreprise, qui est une entreprise à Wall Street, donc c'est un capitaliste pur jus, mm-hmm. qui a disparu quelque part en Suisse dans une maison de thérapie, en ouais. fait, de comment dire, de...
Pour se remettre en forme,
exactement,
comme ils font ouais. en Suisse, où ils changent le sang, les organes et tout.
Voilà, exactement, c'est ce genre d'endroit.
Et pour en fait, très cher, bien sûr.
Voilà, et ce patron, en fait, a envoyé une lettre pour dire « je ne reviendrai pas, j'ai trouvé ma vie là-bas », en gros, quoi. Et donc, lui est chargé d'aller le chercher. Et il tombe sur plus ou moins une maison de fous il se rend compte qu'il y a pas une maison de fous mais il se rend compte qu'il y a des choses étranges et au fur et à mesure
Shutter Island en Suisse quoi.
Mais c'est surtout en fait BioShock en Suisse, parce que il faut savoir que Gore Verbinski devait réaliser l'adaptation de BioShock, le jeu vidéo qui était sorti sur PC 360, PS3 à l'époque en 2006 par Ken Levine, c'est le creative director du jeu, et c'était un jeu assez à la fois assez flippant et en même temps qui traitait d'un sujet assez inhabituel dans le jeu vidéo, qui est plus ou moins le libertarianisme, et en tout cas c'est une des thématiques principales du film, sous couvert de d'explorer en fait une cité souterraine en fait, qui était une nouvelle société créée par un fou qui, pas un savant fou, mais un homme politique qui avait décidé en fait justement d'appliquer les préceptes, les préceptes du libertarianisme en fait à sa propre société, quoi. Et les gens sont devenus fous là-bas, Et les gens sont devenus fous là-bas. Et grosso merdo, c'est un peu ce dont parle Cure for Life. Donc le truc, c'est que le souci du film.
Alors c'est joué avec, c'est avec qui?
Alors c'est Dan DeHaan, je sais pas si tu vois qui c'est, il est dans le prochain Luc Besson là, il joue Valérian
c'est l'acteur en vogue.
Voilà, et il jouait le bouffon vert, je crois, dans ou le super bouffon, je sais plus, dans Amazing Spider-Man 2.
D'accord.
Personnellement, je suis pas super fan du monsieur, mais en tout cas, il a pas fait ses preuves à mes yeux. Mais le truc, en fait, c'est que il y a John Isaac, c'est possible, c'est ça,
possible.
Voilà, et qui joue la personne qui tient la cure thermale. pour appeler
Bienvenue
ça comme ça.
Bienvenue dans ma cure thermale.
Mais le truc, c'est que en gros, c'est assez évident en fait que Verbinski a récupéré tout son travail sur BioShock, sur l'adaptation de BioShock, qui ne s'est pas faite au final. C'était chez Universal. Je pense qu'elle s'est pas faite pour des raisons assez simples. Hein. Il me semble que déjà le film a souffert de la crise en 2008. Donc, y a beaucoup de productions qui ont été fermées à cause de ça. En plus, je pense que ça aurait été un film complexe à faire, parce que ça aurait été un film qui doit être violent et en même temps qui aurait coûté très cher. Ce qui n'était pas aussi évident que ça à faire à l'époque pour un studio américain. En l'occurrence, c'était Universal. Et l'autre souci, c'est que je pense que c'est très difficile à adapter dans l'absolu, en fait, un jeu comme BioShock au cinéma, quoi. Donc le truc, c'est que là, il a plus ou moins récupéré, je pense, tout son travail sur le production design, parce que t'as quand même un espèce de style rétro-futuriste un peu comme ça dans le film, qui est beaucoup plus, je pense, ancré que dans BioShock, où c'était beaucoup plus stylisé. Mais malgré tout, c'est là, en fait, il y a pas mal de plans qui renvoient à ça. Des thématiques proches, on ne parle pas du libertarianisme, mais on parle d'une sorte de fontaine de Chouvance.
Ce qui est intéressant, c'est que quand tu vois la bande-annonce, ça se présente quand même comme une sorte de thriller parascientifique, un peu de SF, un peu fantastique.
Pas vraiment, en fait, c'est pas vraiment ça au final. C'est-à-dire, c'est un thriller, effectivement.
Elle est plutôt jolie, d'ailleurs, la bande-annonce.
Oui, mais voilà, c'est un peu le souci, en fait. C'est une des raisons pour lesquelles, à la base, on voulait en parler. C'est que il y a un travail de production design qui est assez fort, et en tout cas suffisamment fort pour faire une très belle bande annonce. Malheureusement, pour faire un film, c'est pas du tout suffisant. Y a quelques plans comme ça, effectivement, qui sont assez évocateurs, mais ils sont perdus au milieu d'une mise en scène d'une lourdeur, phénoménale. Il y a encore un des éléments en fait qui renvoie à BioShock. Il y a tout un trip autour de l'eau en fait dans le film, et le fait que l'eau en fait a des vertus guérissantes. L'eau de Suisse, l'eau de là-bas a des vertus guérissantes.
L'eau des viands.
Voilà. Et en fait, il pousse les gens à boire en permanence. Et en fait, dès le premier plan, t'as une insistance, enfin dès la première scène où tu vois de l'eau comme ça, t'as une insistance lourde sur le verre d'eau qu'on sert, les glaçons dedans, la goutte d'eau qui sort du robinet, qu'il faut sécher, et en fait il y a tout un truc comme ça de malaise soi-disant en fait qui confine au ridicule, parce que ils mettent dans le scénario finalement une heure et demie à se rendre compte qu'il y a quelque chose dans l'eau, tu vois. Donc je spoil pas vraiment, parce qu'en fait le spectateur un peu au fait de comment un film se fait, tout simplement, en fait, se rendra compte qu'il y a déjà un souci, quoi. Et tout le film est plus ou moins fait comme ça. Ça se veut assez malsain, assez bizarre, alors que c'est surtout lourd
Et puis le malsain et le bizarre, c'est pas trop le truc de Gore Verbinski en général.
C'est ce qu'il avait essayé de faire un peu dans Ring, hein, mais après c'était un film beaucoup plus. Voilà, mais puis c'est un film un peu plus, il y a un peu le même type d'image aussi, comme ça, tu sais, des images, des visions clés, des choses comme ça qu'il y avait dans Ring aussi. Là, t'as pas des les chevaux, t'as comme la scène avec le cheval, je sais pas si tu te rappelles dans Ring, là t'as une scène pareil avec un cerf, tu vois, ou avec pareil avec une vache, tu vois. Enfin, il recycle un peu sa filmo là-dedans. Il retravaille avec Bojan Baleseli, là, qui était le chef op de Ring justement, et qui a bossé sur avec Ferrara par le passé et d'autres réalisateurs. Et je me demande même d'ailleurs si c'était pas lui sur... Non, c'est un autre qui était sur Pirates des Caraïbes. Autant pour moi, c'était Darius Volsky, me semble-t-il. Mmh. Mais voilà. Et donc voilà, il y a quelques belles images en soi, mais c'est complètement fermé dans un film qui dure quand même 2h30.
Oh là là, là, là.
2h30 et pour pas grand-chose, en fait, pour pas beaucoup de...
Pourquoi aussi long,
quoi ? Bah, ça aurait pu être beaucoup plus ramassé. Et encore une fois, voilà, c'est moi je trouve que tous les effets du film, toutes les tentatives de faire un film malsain, tout ça, ça tombe complètement à côté de la plaque parce que c'est, on a l'impression que ça, c'est malsain pour un. Si c'était un film des années 60, oui, on aurait pu dire ah c'est malsain, c'est novateur. Là, t'as une paire de fesses de vieille, enfin, c'est ce genre de truc en fait où attention, on ne détourne pas le regard, on te montre les choses telles qu'elles sont. Ou voilà, ça fonctionne pas. Il y a des gros plans sur des dents pourries, enfin, ce genre de choses, tu vois, où ça se veut dérangeant, ça se veut voilà. Donc bon, j'ai pas trop continué comme ça sur le film, trop spoilé non plus quoi, mais le problème c'est que je pense que voilà, faut voir maintenant pourquoi Verbinski a fait ce film après Lone Ranger, qui a quand même été un très gros bide, hein,
si énorme bide,
voilà, par rapport à comment dire aux attentes de Disney et surtout le fait que on refaisait l'équipe de Pirates des Caraïbes, mais en mode western, hein, c'était voilà. Moi, je trouvais que, même s'il y avait encore une fois des très jolis plans dans Lone Ranger, c'était quand même un film qui assénait sa thématique pro-indienne, plutôt intéressante dans l'absolu, hein, et louable, mais de manière tellement lourde que
surtout, encore une fois, un film qui dure je sais pas combien.
2h30, voilà.
C'est trop long. Enfin, c'est un film de détente, d'action, d'aventure. Le truc aurait mérité 1h30 maxi, quoi.
Voilà, 2h, quoi, maximum. Mais le truc, c'est que c'est vrai que c'est, voilà, c'est un peu le souci. Là, ce film a le même souci, en fait, c'est que ça dure beaucoup trop longtemps, et c'est surtout, ça assène encore une fois toute sa thématique avec une lourdeur et une, comment dire, une façon de d'étaler le truc qui au bout d'un moment t'as envie de te barrer de la salle, parce que c'est même pas juste que le film est long, c'est juste qu'à un moment donné c'est bon, on a compris de quoi ça parle, on a compris ce que t'essayes de nous raconter, voilà. Et quand je dis que ça traite pas seulement du premier BioShock, ça reprend aussi quelques éléments de BioShock Infinite. Les joueurs qui ont fini le jeu et qui verront le film feront peut-être la connexion, quoi. Mais voilà, donc c'est je suis pas sûr que Verbinski va en parler en promo du fait qu'il a plus ou moins pillé en fait BioShock, ouais. BioShock et parce qu'il a pas pu le faire, et je pense qu'il y a une frustration autour de ça. Je pense que en voyant A Cure for Life, on a une bonne idée de ce que ça aurait été, son BioShock justement, et je pense que ça aurait été plus ou moins une préquelle au premier jeu. Ça aurait expliqué un peu comment toute cette société est partie en cacahuète, quoi. Bon, en l'occurrence, c'est BioShock 2 qui a plus ou moins fait office de préquelle dans mon souvenir. Voilà, mais je pense que ça aurait été complètement différent. Et voilà, donc bon, ça sort le 15 février chez nous, malheureusement, enfin, à moins que vous ayez un fétiche sur Gore Verbinski, je pense que vous pouvez faire l'impasse, voilà.
Bon, bah tant pis, on n'ira pas voir. Merci de nous avoir prévenus, hein. Déjà, 2h30, il faut trouver le temps. Hein. Bon, bref, ok, donc c'était A Cure for Life de Gore Verbinski, absolument pas recommandé par Stéphane.
Voilà,
Masaki,
désolé.
Dommage. Ouais. À une prochaine fois, donc.
Ouais.
Alors on enchaîne, Rafik, avec Don't Breathe, La Maison des Ténèbres, un film qui sort en DVD, en Blu-ray. C'est pas sorti au cinéma ou
c'est sorti en salle. C'est un thriller assez étonnant qui a été, on peut le dire, accueilli un peu n'importe comment. Enfin, en gros, accueilli comme un film d'horreur de bas étage par la critique française, ce qui est très dommage parce que c'est un film qui a des qualités vraiment... auxquels on n'est plus trop habitué, notamment des qualités d'efficacité et de narration. Donc c'est pour faire assez brièvement l'histoire de trois adolescents pas forcément parce qu'ils ont besoin d'argent, mais plutôt parce qu'ils s'ennuient, s'amusent à faire des cambriolages à droite à gauche. Et qui ont repéré la maison idéale dans un quartier un peu déserté, un vieil homme aveugle, ancien militaire, voilà, qui est une proie facile et qui a priori, d'après des rumeurs, cacherait une grosse somme d'argent chez lui. Et donc ils vont s'infiltrer chez ce vieil homme. Et là, la situation va complètement se retourner puisque ce type, cet ex-para est un est un véritable un ours aux aguets. Et ce sont en fait ces trois cambrioleurs qui vont se retrouver kidnappés d'une certaine façon à l'intérieur de cette maison. Donc c'est un film d'invasion inversé en fait. On le doit
à Fede Alvarez
et,
qui n'est pas un inconnu.
Voilà, Herodo Sayagues qui s'était chargé du remake de Evil Dead. Voilà.
Et d'ailleurs c'est produit par Sam Raimi et Robert Tappert
qui a clairement apprécié le travail qu'ils avaient fait sur Evil Dead. Et
puis Sam Raimi qui le suit depuis longtemps, parce qu'il les avait remarqués avec leur court-métrage Attaque de Panico, je crois.
Ouais, bah Panic Attack en anglais.
Ouais. Et c'était un court-métrage uruguayen, et donc il les avait pris pour produire le remake d'Evil Dead.
Et donc c'est un réalisateur sud-américain.
Voilà, on a affaire à un film au pitch très facilement identifiable, qui est un jeu de géographie pour le coup, puisqu'en fait beaucoup de séquences fonctionnent sur l'idée que on voit ce qui se passe. C'est-à-dire ça se passe pas dans le noir. Les personnages sont dans la maison, ils doivent juste ne pas faire de bruit, parce que cet aveugle hante ces lieux comme une espèce de minotaure et don't breathe, tout simplement, parce que voilà,
don't
la respiration
breathe, voilà, pour les non-anglophones, voilà, ça veut dire ne respirez pas. Voilà.
C'est-à-dire, en gros, pour résumer...
Je crois que ça voulait dire la maison des ténèbres.
C'est ça.
Ce personnage, on peut dire que c'est une sorte de Daredevil, quoi. C'est-à-dire, c'est un personnage aux capacités physiques très développées, qui est aveugle, mais qui a développé une sorte de sens radar, enfin qui a surdéveloppé son ouïe, par exemple. Donc voilà,
dans c'était un sick fuck.
Tout à fait. Donc un personnage extraordinairement interprété par Stephen Lang, échappé d'Avatar, qui est un véritable, j'imagine, pour un réalisateur, un véritable plaisir à filmer, tellement il peut avoir des allures de pur personnage de comic book dans des plans très iconiques. Et là vraiment, on sent que les cinéastes sont beaucoup amusés avec son physique, lui tourner autour comme une bête sauvage aux aguets.
Oui, dans Avatar, c'est le méchant, hein, on le rappelle.
Et c'est un film qui, comme souvent dans les ce que je qualifierais de bonnes séries B, c'est-à-dire un truc bien ficelé, se permet d'avoir en sous-texte, mais sans jamais l'appuyer, sans jamais le mettre dans la gueule du spectateur, quelque chose d'assez intriguant sur la question de la filiation. Alors je peux pas trop en raconter parce que c'est un film qui réserve quand même pas mal de surprises.
Oui, il faudrait pas spoiler. Voilà.
Mais dès le début, les adolescents nous sont présentés vraiment comme des laissés pour compte de la parentalité. Les personnages sont développés à travers des scènes très courtes et très économes, mais où on comprend vraiment la rupture qu'ils ont chacun avec leur famille, quoi.
Ces scènes qui présentent un matériau qui sera utilisé par la suite, notamment au cours de certains payoffs qui sont particulièrement payants. Alors je spoil pas, les gens qui ne l'ont pas vu verront ça et ils y penseront sans doute.
Je pense
notamment à l'épisode de la coccinelle, c'est bouleversant quand ça revient ce truc là quoi. Il y a vraiment c'est un film qui joue sur plusieurs tons.
La voiture ou l'insecte ?
L'insecte. et qui ne se repose pas, moi, je trouve, qui essaie de se remettre constamment en cause dans sa narration. Par exemple, ce long passage, enfin, il n'est pas super long non plus, mais où ils sont piégés dans la cave, dans le noir total, un peu à la règle, on peut croire que ça va être la deuxième partie du film, mais en fait, non, au bout de 10 minutes, c'est fini, on passe à autre chose. Après, il y a un truc à la Die Hard dans les coursives d'aération. Et donc, c'est un film qui est, comme une bonne série B, justement, essaie constamment de renouveler sa narration avec de nouvelles idées, quoi.
Tous les morceaux du bison, c'est-à-dire que rien dans la maison n'est laissé à l'abandon. Tout ce qui peut être utile est utilisé, et même parfois deux fois, lorsqu'on a une idée à construire sur quelque chose qui a déjà été utilisé, on s'en prive évidemment pas. Il y a aussi une écriture un jeu de peut-être de rimes qui est plutôt sympathique, puisqu'en fait les scènes du début répondent aux scènes de fin. Voilà. La façon avec laquelle les personnages nous sont présentés en disent beaucoup sur la façon avec laquelle on va les quitter. Donc il y a toute une écriture assez, assez fine, et que je trouve dommage qu'elle soit passée complètement au-dessus de la tête de la critique, y compris une partie de la critique spécialisée.
Ceci dit, Stéphane, pour être assez honnête, le truc qui est très plaisant avec Don't Breathe, c'est aussi que ça a été un carton aux États-Unis, un vrai carton. Pas un carton n'importe quel remake à la con de Vendredi 13, de Freddy, tout ça, qui font leurs 20-30 patates en premier week-end parce qu'ils capitalisent sur un nom, et ensuite ça s'écroule complètement, ça recrée rien du tout. C'est un vrai carton parce que, comment dire, ça s'est fait sur la longueur, sur un ou deux mois. Ça a rapporté quasiment 100 millions de dollars, ce qui est quand même plutôt une belle somme parce que c'est un film qui en a coûté une dizaine, qui, moi, je trouve, est extrêmement bien produit, extrêmement bien filmé pour cette somme-là. Parce que vous parliez aussi de d'écriture, et moi, ce que j'aime aussi, effectivement, quand vous dites ça coupe le bison, ça prend toutes les parties, c'est aussi qu'il y a une façon de relancer. C'est pas un film à twist à proprement parler, il y a quelques surprises, mais c'est un film à surprise, effectivement, parce qu'il y a quelques surprises qui sont effectivement relancées en permanence à travers la mise en scène, c'est-à-dire qu'il va y avoir cette scène où on va dire bon là c'est le moment un peu Hitchcockien, est-ce qu'on joue sur le suspense, il va y avoir ce moment un peu plus bourrin, un peu plus violent, un peu plus voilà, et puis t'as quand même deux trois moments, moi je trouve assez malsains quoi, vraiment hein, avec on va pas spoiler, mais quelques trucs assez crades qui concernent le personnage de l'aveugle, qui où en fait il y a des vrais retournements de situation. À la fois ça peut être un personnage pour lequel tu peux avoir un attachement émotionnel, tu te dis ah le pauvre etc. et puis d'un seul coup ça se retourne, et
ah aussi ouais, vice-versa, c'est une manière truc, de switcher la perception voilà, du personnage qui
voilà, et de faire par exemple les personnages principaux, enfin les trois jeunes, enfin surtout l'héroïne en l'occurrence, le personnage comme ça, d'en faire parfois une nana où tu te dis mais
c'est-à-dire elle est en train de cambrioler un vieil homme aveugle,
voilà, quel égoïste, quel machin, et le truc c'est que malgré les bonnes raisons qu'elle pourrait avoir de le faire, on va dire entre guillemets, mais le truc c'est que donc du coup c'est malgré ça
ils arrivent à te la rendre empathique à nouveau
tout à fait, mais c'est ça, enfin, et à faire glisser l'empathie en fait au fur et à mesure du métrage, parce que ouais. quand on passe, évidemment on prend le parti de la victime, c'est quand même lui qui se fait agressé chez lui. Et en même temps, il se révèle tellement dangereux, tellement prêt à tuer, qu'on commence à avoir des doutes aussi sur ses motivations et sur son passé, parce qu'on ne sait pas très bien ce qui lui est arrivé lui-même en tant que père qui a perdu son enfant. Donc on commence à avoir des doutes sur lui, au moment où il devient justement cette espèce de bête, cette espèce de minotaure.
De Boogeyman aussi, parce que c'est aussi un film de Boogeyman.
Donc encore une fois, c'est vraiment un film...
Il y a un 2 qui est dans les starting blocks.
Un film subtil, dans son écriture, et surtout moi je trouve dans sa mise en scène ça fait
c'est assez rare pour être souligné dans le cadre du film d'horreur actuel, oui. C'est un film très beau visuellement, voilà, moi, je trouve
extrêmement bien cadré
la photo
très belle
est superbe,
cinématographie, ouais.
et qui utilise énormément toutes les lignes de fuite que le décor peut mettre à sa disposition, donc vraiment il y a un effort surprenant et qui serait dommage de rater si on, comme nous, on a grandi dans cet amour de la série B bien faite. Voilà.
Bon, très bien, c'est tentant en tout cas. Donc ça sort là dans quelques jours en Blu-ray, ça vaut une vingtaine d'euros comme d'habitude pour les Blu-ray. Ça n'a pas été tourné en 3D pour le coup, vu la mode
actuelle.
Non,
c'est assez économique dans ses effets aussi, c'est-à-dire que le truc c'est que je pense que c'est un film à mon avis, c'est le genre de film sur lesquels en fait le studio a décidé de miser après avoir vu le film, c'est-à-dire parce que sur le papier, si justement le film était pas réalisé, ça pourrait être un truc qui pourrait tomber complètement à l'eau justement. Et le truc c'est qu'à mon avis, le studio a décidé de miser vraiment derrière le marketing, le tout ça, au moment en fait où ils ont vu le film et qu'ils se sont dit ok, c'est un bon produit, c'est un vrai truc qu'on peut vraiment vendre. Et ils sont
parce qu'à la base, c'est un petit budget.
Voilà, c'est même pas 10 millions.
Il en a rapporté 140
en Bulgarie, je crois. En tout cas, tous les intérieurs de la maison, c'est-à-dire donc 90% du film.
Les extérieurs à Détroit.
Bon, très bien.
Donc voilà.
Et ben, passons alors à la dernière partie de ce Capture Mag Hebdo. Je me tourne à nouveau vers Arnaud. Insiders, un direct to vidéo d'origine espagnole. Dis-moi en plus, cher ami Arnaud.
Alors c'est un vrai coup de cœur effectivement, et c'est bien dommage que ça sorte en direct ou vidéo, en DVD,
et
en Blu-ray.
Cinéma.
Non, c'est bien dommage parce que ça aurait pu largement y prétendre, beaucoup plus que d'autres films européens qu'on fait sortir dans nos salles assez régulièrement. Je rappelle quand même que c'est un film qui a récolté 1 million de spectateurs en Espagne, hein, ce qui est très gros en Espagne quand même. Donc voilà, c'est un film de braquage, c'est un vrai polar, thriller, haletant, plein de suspense. Enfin, il y a des acteurs quand même connus, même y compris du public français. Dans les acteurs principaux, il y a Louis Tozard, hein, l'acteur de Cellule 211, qui joue aussi le méchant de Miami Vice de Michael Mann. Donc, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas sorti ce film en salle. Mais bon, bref. Donc oui, Insiders. Donc c'est un, comme je l'ai dit, c'est un film de braquage. Alors en fait, c'est un ça se passe à Valence, ouais, en Espagne donc, et c'est une bande de braqueurs un matin qui, sous une pluie diluvienne, c'est important dans l'intrigue, le climat météorologique, une bande de braqueurs donc qui investissent une banque d'affaires à Valencia. Et qui prennent tout le monde en otage, tout ça, qui vont vider les coffres où il y a beaucoup d'argent. Et au cours du braquage, alors évidemment la police arrive, il y a quelqu'un qui déclenche l'arme, enfin tous les trucs qu'il y a en général dans un film de braquage. Mais lorsqu'ils ouvrent les coffres, ils finissent par découvrir un secret. Il y a quelque chose auquel ils ne s'attendaient pas, en tout cas pas tous les braqueurs. S'attendait à ça. Il y a quelque chose dans un coffre qui potentiellement, je veux pas tout spoiler, raconter toute, ouais, l'intrigue, mais on va dire que c'est quelque chose qui élargit considérablement l'intrigue et qui l'a fait sortir des murs de la banque, puisque c'est un secret qui impliquerait des hommes politiques aux plus hautes places de l'État, et qui va donc faire prendre un détour encore plus inquiétant à l'intrigue et aux personnages qui sont tous enfermés dans cette banque. Alors moi, c'est le genre de film que j'aime énormément, parce que c'est genre de film où on commence, où tout est clair. C'est-à-dire, il y a d'un côté les braqueurs, de l'autre côté les policiers, au milieu les otages, et au fur et à mesure, tout va s'inverser et tout va se mélanger. C'est-à-dire, parmi les braqueurs, certains vont s'avérer ne pas être ce qu'ils devaient être. Parmi les victimes, parmi les otages, il y a des gens aussi à double facette. Et puis, on va passer le cap de la police et rencontrer les politiques. Et là, s'apercevoir qu'il y a des choses encore moins nettes qui se trament derrière tout ça. Et donc, c'est un film avec une intrigue comme ça qui va en entonnoir, mais inversée. C'est-à-dire qui se complexifie de plus en plus, qui s'élargit de plus en plus à mesure qu'on progresse. Et avec, au bout du compte, hein, une fin tout à fait satisfaisante, hein, en termes de
surprise,
oui, de surprise, et puis en termes de contentement pour le spectateur, quoi. Mmh. C'est vraiment voilà, donc on le voit, c'est un polar, un genre assez classique, hein, le film de casse, mais qui se teinte, enfin comme le font souvent les Espagnols, hein, mélanger les genres, là en l'occurrence avec le thriller politique, quoi. Et voilà, encore une fois, c'est un film peuplé de, enfin tous les amateurs de cinéma espagnol reconnaîtront beaucoup de grands acteurs espagnols. J'ai cité Louis Tozard, mais il y a aussi José Coronado qui joue une sorte de colonel, d'homme de l'ombre de l'État, qui vient à un moment parce que la situation est en train de tellement dégénérer qu'on sent que c'est quelqu'un de très haut placé, mais qui vient régler les choses, quoi. Voilà. Donc il y a beaucoup de très grands acteurs. C'est un scénario, alors je n'arriverai pas à prononcer son nom, mais okay, c'est le scénariste de Alex de la Iglesia. Peut-être Stéphane, tu peux m'aider.
Jorge Guerica Echevarria.
Ah, c'est bien, bravo, quel talent.
Formidable.
Voilà, donc il est basque comme son nom.
Le scénariste attitré d'Alex de la Iglesia, voilà. qui bah, en fait, ils ont fait, je crois qu'ils se sont un peu arrêtés après, comment il s'appelle leur film en anglais,
Il avait fait Las Burras de Edgar Amordi, là.
Il est revenu à ce moment-là, mais il était parti tourner avec d'autres cinéastes espagnols, écrire d'autres cinéastes, dont d'ailleurs Cellule 211 en l'occurrence.
Bah, c'est les mêmes producteurs, ce sont les...
C'était Daniel Monzon qui avait réalisé le film sur Cellule 211, là c'est Daniel...
Calparsoro.
Calparsoro.
Voilà. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre?
Alors, c'est un réalisateur espagnol qui a...
Il est très sympathique parce qu'on a le même âge déjà, donc je l'apprécie particulièrement pour ça.
C'est un réalisateur espagnol qui travaille depuis quelques années, hein, qui a, je crois, 40-50 ans, qui a quelques films derrière lui.
48 ans exactement.
Voilà, qui a quelques films derrière lui. C'est son premier long métrage qui sort en France.
Non, alors non. Non, alors là, c'est là, je reviens. Il a fait un film qui s'appelait Asfalto.
Ah oui, Asfalto.
Qui est sorti vraiment dans quelques salles. Je l'ai vu, moi, à l'époque, en projet de presse, parce que j'avais fait la critique dans un magazine dans lequel nous travaillions tous les trois à une certaine époque.
Je vois pas de quoi tu parles.
Voilà. Et qui était plutôt un film de braquage.
17 janvier 2001.
Polar social. qui était assez réussi dans les maigres moyens qu'ils avaient, quoi.
Et qui était vendu comme une sorte de Fast and Furious sur l'affiche.
Ouais, alors que rien à voir, évidemment. Et en fait, voilà, c'était assez, assez solide. Et après, il a des films qui sont sortis en vidéo, pour le coup, aussi, qui sont Guerreros, alors qui est un film de guerre, enfin, apparemment un film de guerre, mais c'est, voilà, avec Eduardo Noriega, qui était la très grosse star de l'époque en Espagne, qui l'est un peu moins aujourd'hui.
Oui, ça date de
des années 2000, 2002-2003.
Une bonne dizaine d'années. Hein,
2002-2003. Ouais. Et puis après, il a fait d'autres films. Alors moi, je n'ai pas vu cela pour le coup, c'est Invasion et The Chase. Ouais. Voilà. Mais non,
alors, c'est quelqu'un qui donc, a fait sa carrière en Espagne, mais c'est quelqu'un qui a, et ça se sent, hein, qui a été formé au cinéma, qui a appris son métier aux États-Unis, hein, à New York. Je ça se sent parce que, alors, peut-être par exemple, la photo n'est pas la chose la plus réussie du film. Hein, c'est une photo qui essaie de retranscrire un petit peu l'atmosphère pluvieuse du film. Parce que justement, la pluie diluvienne qui s'abat sur la ville va avoir une implication à son rôle dans le hold-up, va empêcher en fait les braqueurs de sortir de la banque. Quoi. Oui, donc la photo est peut-être pas ce qu'il y a de plus réussi, mais en tout cas, dans l'efficacité narrative et visuelle. Qui est la sienne, Insiders évoque évidemment le pas mal le cinéma américain. Mais voilà, donc c'est un film donc qui sort, vous pouvez vous le procurer en Blu-ray. Il y a un making of dessus, bon, qui est pas super indispensable parce que c'est un making of très promo, mais qui permet de voir un petit peu toute l'équipe et notamment le scénariste d'Alex de la Iglesia. C'est lui qui a plus ou moins porté le projet, hein, d'après ce que j'ai compris, parce qu'il avait écrit le scénario et c'est les producteurs de Cellule 211 qui sont venus le chercher pour réunir une équipe autour de ce scénario. Et bon, voilà, pour les connaisseurs du cinéma d'Alex de la Iglesia, un scénariste avec le talent qui est le sien, comme...
Ouais, je fais une petite aparté parce que Guerica Echevarria, il n'avait pas, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, il n'était pas sur Baladatrice. Sur la chispa de la vida. Il n'était pas sur ces scénarios-là, en fait. Il est revenu avec Les sorcières de Zugarramurdi.
Ce qu'il était sur Mes chers voisins.
Oui, bien sûr.
Ah,
hein,
que
bien
j'adore. Sûr, ouais. Un de mes préférés de Alex.
Et donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui développe en général des histoires surprenantes, riches, complexes. Et donc, on peut compter sur lui pour faire de ce film de braquage quelque chose de différent du tout venant. Et voilà, Insiders, c'est le titre français, bon, qui est encore un titre anglophone, hein, et pas terrible. Le titre original était beaucoup plus beau, c'était Cien años de perdón, 100 ans de pardon.
De pardon.
Voilà, et qui évoque un proverbe espagnol qui dit qu'il vole un voleur ou une ladronne.
Et pardonné pour 100 ans.
Récolte 100 ans de pardon et pardonné pour 100 ans. Hein, voilà. Voilà,
Insiders. Ça donne vachement envie. En plus, le film est court, ce qui est pour moi un gage en ce moment de qualité, parce que j'ai toujours l'impression que les films ont tendance à traîner, durer 2 heures, 2 heures et demie. Et les films qui se ramassent sur 1h40, ça, surtout avec des scénarios complexes, comme tu as l'air de le décrire, Arnaud, ça donne vachement envie.
Ça passe comme une lettre à la poste, malgré l'augmentation graduelle des intrigues, des sous-intrigues qui s'entrecroisent au fur et à mesure que le film progresse. Ça va très vite.
On passe un bon moment. Super, eh ben écoute, c'est disponible évidemment chez nos amis revendeurs pour une 20aine d'euros en Blu-ray et 17 euros, je crois, en DVD. Ça sort là, c'est sorti.
Le 31 janvier, c'est sorti.
C'est sorti. Très bien, eh ben, je termine par une toute petite annonce Nuomax, puisque nous l'avons annoncé déjà il y a quelques semaines, une nouvelle Nuomax fin mars, en plein milieu du Salon du Livre, je vais être frais moi, c'est la nuit pirate pour ceux qui aiment les pirates, avec des chefs-d'œuvre comme Les Goonies de Richard Donner, Hook de Steven Spielberg, et Pirates des Caraïbes de Gore Verbinski.
Dont on a parlé tout à fait.
Donc voilà, la nuit pirate, vous retrouvez ça sur le site des Nuomax ou sur le Facebook. Et je vous encourage vivement à aller voir ça. Et puis sinon, c'est tout pour moi. Hein. On va s'arrêter là ce soir.
C'est tout pour nous alors.
C'est tout pour vous. Et on va se retrouver évidemment sur les réseaux sociaux. On va se retrouver sur CaptureMac.net. C'est quand même là que c'est la source de toute inspiration, c'est la source de votre éducation cinéphilique, les amis.
je parle de vous, les auditeurs, hein, parce que là, autour de moi, j'ai des tels maîtres en cinéma que je me sens tout petit, tout petit.
Arrête-toi, si les gens voyaient les têtes qu'on fait, là,
arrête-toi, David.
Et puis,
bon, je donc, mettez 5 étoiles.
5 étoiles sur iTunes. Allez suivre le Twitter de Capture Mag.
Capture le Mag. Capture
le Mag. Allez,
et
allez.
Moi, à partir de demain soir, vous pouvez me retrouver au Bistrot du Fromager dans le vieux Nice, dans le vieux centre de Nice.
C'est ça.
Où je vous attends devant un magnifique plat de tripe à la niçoise.
Et vous pourrez lui offrir un coup à boire.
Et où il chante du Jodassin.
Voilà. Il chante du Jodassin, formidable. Et Rafik, on le retrouve à la tête, aux commandes de nombreuses beats sur Arte Créative.
Du meilleur magazine d'Arte et de toutes les chaînes réunies.
De toutes les chaînes,
en fait, du moment.
Ouais, ouais. Julien va être content pour son magazine.
À la fois en français et en allemand.
Voilà. Et
avec de nouveaux collaborateurs, je vous encourage à voir les épisodes écrits par nos nouveaux collaborateurs dont je ne vous révèle pas les noms, ils sont dans le générique.
D'accord, voilà. Merci, très bien, parfait.
De quoi ils parlent?
Je ne sais pas. On se retrouve la semaine prochaine, les amis, pour un Capture Mag Hebdo.
Et on salue Julien.
Et on salue Julien.
Bisous, Julien.
Bisous, bisous. Allez, bonne semaine et à la semaine prochaine.